Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les nationalistes peuvent-ils se passer de l'Europe ? Ni l'un ni l'autre n'est tête de liste aux européennes, pas même candidat pour le premier, en position inéligible pour la seconde. C'est pourtant leur duel, une répétition de la présidentielle de 2017 qui va occuper la dernière quinzaine de la campagne des européennes en France. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Pour le président français, l'alternative est claire. La liste du Rassemblement National est une liste de déconstruction de l'Europe. Moi, c'est Emmanuel Macron qui parle, je suis patriote français et européen. Ils sont nationalistes, c'est différent. La présidente du RN lui répond que s'il perd les élections, il devra en tirer les conséquences et partir. Alors l'affrontement entre un camp progressiste d'une part, national et populiste d'autre part, s'il est discutable du point de vue de la science politique, a réussi en tout cas à s'imposer comme un des enjeux majeurs du prochain scrutin. Le fait est que les partis nationalistes européens sont en position favorable, comme le résume Le Figaro en une ce vendredi. Porté par la vague d'opposition à l'immigration, il devrait entrer en force au Parlement et rêve de peser à l'intérieur. Mais, ajoute le journal, ils partent en ordre dispersé. On peut d'ailleurs se demander si les Européennes n'ont pas d'abord pour vocation de donner du poids à ces formations dans leur propre pays avant que de leur permettre d'agir à Bruxelles et à Strasbourg. Alors les nationalistes peuvent-ils se passer de l'Europe ? Eh bien, ce n'est non pas notre traditionnel club des idées que nous vous proposons ce vendredi, mais un club de la presse européenne, comme nous l'avions déjà fait il y a quelques semaines, en compagnie de deux journalistes qui sont à nouveau présentes avec nous ce soir. Birgit Holzer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc journaliste, vous travaillez pour plusieurs titres de la presse régionale allemande. Et Ana Navarro Pedro, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondante de l'hebdomadaire portugais Visao. Et puis, deux nouveaux venus dans ce club de la presse européenne. On verra si on en refait un d'ici la fin de la saison. Marek Gladys, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondante de la radio polonaise RMF-FM. Et vous venez de publier aux éditions de l'Artilleur, La France, maillon faible de l'Europe. C'est une question que vous posez sur les observations. Ça, c'est le sous-titre d'un journaliste polonais. Puis, quatrième invité, Alex Taylor, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste franco-britannique, spécialiste...
Européen, je préfère. Moi, je me définis comme un journaliste européen, parce que je travaille un peu partout en Europe, et voilà, donc européen.
Ça fonctionne très bien, de toute manière, pour notre plateau ce soir. Vous êtes spécialiste des questions européennes, en tout cas, vous avez longtemps suivi, notamment ici à Radio France, et désormais spécialiste d'un feuilleton dont on verra bien s'il se termine un jour, c'est le Brexit. Brexit, l'autopsie d'une illusion. Vous venez de publier cet ouvrage chez Jean-Claude Lattès. Alors si vous le voulez bien, on va démarrer par la France. Eh ben oui, parce que quand on parle des Européennes et qu'on en parle à la France, forcément on a tendance à nationaliser quelque peu ce scrutin. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'a fait Emmanuel Macron en intervenant depuis le sommet européen en Roumanie pour dire à quel point il fallait combattre le Rassemblement National. Est-ce que c'est quelque chose d'abord de très français, selon vous, que de voir le chef de l'exécutif s'investir de manière aussi partisane dans un scrutin européen alors qu'il n'est pas candidat, Birgit Holzer?
Pour moi, c'est déjà quelque chose de très français de personnaliser autant un scrutin qui, normalement, ne devrait pas l'être, parce que c'est des élections européennes pour un Parlement européen, et c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, de tout minimiser sur un duel qu'on a connu il y a 2 ans, Emmanuel Macron, donc le soi-disant progressiste contre Marine Le Pen, la soi-disant populiste ou nationaliste. C'est dommage parce qu'on parle plus de programme, on simplifie le débat, on simplifie aussi les enjeux européens. Après, forcément, les deux ont grand intérêt à concentrer ce débat sur les deux personnalités, parce qu'Emmanuel Macron, ça a très bien fonctionné il y a 2 ans. Il a été élu entre autres aussi parce qu'il il s'est posé comme moi contre le chaos, moi contre les nationalistes. C'est un risque aussi qu'il prend parce que justement, s'il n'a pas le score attendu, demandé, justement, il est affaibli au niveau national et du coup, on refait une élection nationale des élections européennes qui devraient être européennes.
Alex Taylor, vous qui avez suivi un certain nombre de scrutins européens, est-ce que c'est quelque chose de récurrent que de voir les scrutins se point personnalisée et nationalisée. Et est-ce que c'est quelque chose de très spécifique à la France pour vous ? Est-ce que ça n'est pas le cas finalement dans tout un tas d'autres, tout un tas d'autres pays où les enjeux sont d'abord nationaux dans ce cadre du scrutin européen ?
Bah, la réponse est comme toujours complexe. Évidemment, en France, tout est fait autour de personnalités. Moi, j'étais choqué quand je suis arrivé en France, par exemple, qu'on présente le journal de Patrick Bravo d'abord. C'est toujours le journal de quelqu'un. La BBC, par exemple, ne fait jamais le journal de quelqu'un. C'est le journal et en Allemagne. Encore moins, c'est à peine si on sait le nom des Sprecher, ceux qui donnent les informations.
Il y a eu pendant de nombreuses années la revue de presse à l'extérieur.
Oui, voilà, c'est un exemple, j'ai pas demandé. Mais en même temps, moi je ne suis pas complètement contre non plus, parce que si on ne personnalise pas ces débats européens, je suis complètement d'accord avec vous que il faut que les gens prennent conscience des thématiques. Mais l'Europe a trop longtemps souffert justement de ce manque, c'est ce qu'on lui reproche à longueur de temps. Alors, quand vous avez, par exemple, quand vous avez un visage, je vais citer un contre-exemple terrible, mais ce qui marche très bien, je l'ai vu encore hier soir à la télévision britannique, c'est Nigel Farage. Nigel Farage, c'est Monsieur Brexit. Et s'il arrive à générer autant d'intérêt, c'est parce qu'il personnalise le débat. Et quand on reproche, moi, j'ai fait des émissions sur l'Europe pendant 30 ans, et en fait, tout le temps, on nous disait, mais l'Europe n'intéresse personne, parce que quand j'appelle l'Europe, c'est qui ? Et quand on le met pas de visage, c'est très difficile d'intéresser les gens, parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de gens capables de susciter la passion. Vous avez des Guy Verhofstadt, des gens Louis Bourlange qui se lancent dans des diatribes, j'allais éviter le mot, non, mais j'approuve ce qu'ils disent. Mais si vous n'avez pas cette passion et des têtes et des visages, le problème de l'Europe, c'est que les gens ne s'identifient pas et ne retiennent pas ce qui a été dit. Mais je suis d'accord avec vous, dans le fond, il faudrait qu'on parle plus un peu des programmes.
Ana Navarro-Pedro et Marek Gladys, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a aussi besoin, dans un débat comme celui-là, même si ça revient aussi un peu à le nationaliser, d'incarner le débat, de l'incarner fortement? Est-ce que vous diriez, question subsidiaire, que Emmanuel Macron et Marine Le Pen incarnent une véritable alternative, c'est-à-dire ce qui est proposé, c'est beaucoup proposé d'ailleurs par Emmanuel Macron, c'est peut-être aussi le cas dans d'autres pays, mais en tout cas le choix entre le progressisme versus le nationalisme ou le populisme? Ana Navarro-Pedro.
À première vue, on pourrait dire que c'est cela. D'un autre côté, la polarisation contre les partis populistes en Europe, à l'intérieur des pays et au niveau européen, est une véritable erreur politique. Parce que les partis de gauche et de droite traditionnels qu'on a connus dans tous nos pays depuis 30, 40 ans, et bien justement depuis 30, 20, 30 ans, ont été incapables de répondre aux soucis des électeurs, aux soucis économiques, aux soucis de sécurité aussi, souvent. Ils se sont déconnectés dans cette incapacité de répondre aux attentes des électeurs, ils ont retréci, ils ont diminué. Et l'alternative est venue pour les électeurs des partis populistes qui ont commencé à émerger.
Mais quand vous dites, Navarro-Pedro, que c'est une erreur politique, c'est une erreur d'analyse, c'est-à-dire vous considérez que cette alternative-là, elle n'existe pas, ou c'est plutôt une erreur de stratégie ?
C'est une erreur de stratégie. C'est pour ça que je dis qu'en apparence, oui, le symbole, oui, il est là. Mais parce que l'idée, ça ne doit pas être la polarisation et le duel pour le duel de pouvoir, mais il faudrait que les partis traditionnels, ceux qui garantissent quand même les libertés civiles, les libertés individuelles et peut-être une certaine notion de en économie de services publics qui est dans notre tradition européenne quand même, et d'économie mixte qui est dans un petit peu d'économie mixte qui est dans notre tradition européenne, et bien que ces partis-là ne se présentent pas les partis populistes comme vraiment un ennemi à abattre alors qu'ils n'ont rien à leur proposer. J'avais un peu perdu, mais le débat et la lutte doit se faire sur les idées. Trouver de nouvelles idées pour vraiment combler les attentes des électeurs et non pas pour une pure lutte de pouvoir. Et c'est l'idée que les électeurs en ont maintenant dans ce clash entre ceux qui se disent progressistes et qui ne le sont pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans ce mot, et les populistes qui sont aussi très divers.
Comment est-ce que Marek Gladys, le correspondant de la radio polonaise RMF, voit cette alternative telle qu'elle est proposée dans le débat français pour ces élections européennes.
En effet, vous savez, pour un journaliste polonais comme moi, c'est assez étonnant, sidérant de voir comment Emmanuel Macron arrive à imposer ses langages. En entrant dans la campagne électorale, il impose ce duel entre les progressistes, les bons, les populistes méchants, sauf que, voilà, il met dans, on a l'impression parfois qu'il met dans un sac, avec le nom générique populiste, tout ce qui ne sont pas d'accord avec lui. En les insultant au passage, parce que voilà, on se souvient d'Emmanuel Macron traitant le gouvernement polonais des esprits fous, de l'épreuve nationaliste. Je crois qu'on ne construit pas l'Europe en insultant les gens qui ne pensent pas comme vous. De voir comment il arrive à imposer ce langage, parce que déjà, le terme populiste, c'est vraiment un terme dont il est vraiment difficile à préciser la définition. De l'autre côté, il y a le terme progressiste. C'est un terme tellement trompeur parce que, si vous vous souvenez bien, il y avait déjà Staline qui était le leader du monde progressiste. Il y avait des communistes qui ont...
Ça, c'est très dur et très vache.
C'est la vérité qui est dure, madame. Voilà, c'est la vérité qui est dure.
Quand vous dites, Marie-Gladys, qu'il a réussi à imposer ce thème, vous considérez qu'il a réussi à l'imposer en France ou bien c'est également en dehors des frontières françaises? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des propos qui portent, par exemple, en Pologne? Alors, je vais pas vous n'êtes pas le représentant ce soir de la Pologne, vous êtes polonais en l'occurrence, donc vous savez sans doute davantage que nous ce qui s'y passe, mais est-ce que c'est quelque chose, en tout cas, qui circule jusqu'à la frontière polonaise?
On a l'impression qu'il essaye d'imposer ça à l'Europe entière, à l'Union européenne. En Pologne, bien sûr, il y a une partie il y a des partis d'opposition qui se sentent proches de la REM, du parti d'Emmanuel Macron. Donc ça prend un peu, mais en effet, en Pologne, personne n'a dit que c'est un duel entre les progressistes et populiste, ça serait considéré plus ou moins comme ridicule.
Birgit Holzer, cette alternative-là, en Allemagne, elle existe ou bien est-ce qu'elle est différente? Quels sont les enjeux tels qu'ils sont présentés aujourd'hui aux électeurs allemands pour ces élections européennes?
Je pense que les enjeux, comme dans les dernières élections déjà, c'est vraiment effectivement la montée de l'extrême droite ou des populistes de droite. L'Allemagne a encore un système un peu plus classique. Ça a explosé en France il y a 2 ans, justement avec un parti socialiste qui a eu un score très bas et aussi les Républicains qui n'ont pas réussi à être au deuxième tour. En Allemagne, on a encore des sociodémocrates, on a encore des conservateurs, mais on a aussi les Verts et les Libéraux. Mais on a surtout, depuis quelques années, du coup, une extrême droite, AfD, Alternative für Deutschland, mais qui, comme en France, en fait, ont commencé avec un programme ou un discours très europhobe. Ça a commencé surtout en disant « nous, on va arrêter à payer pour les autres, il faut sortir de l'euro parce que ça nous coûte trop cher, etc. » Après, ça a viré et c'est devenu un parti anti-migrant. Du coup, d'un parti assez intellectuel, des économistes, à un parti comme plus comparable peut-être au Front National, qui a en premier pilier quand même le rejet de migrants, de l'immigration. Et aujourd'hui, ils sont en train depuis quelques années, ils montent partout. Et je pense que quand en Allemagne, on va regarder le score, c'est surtout le score de ce parti-là qu'on va regarder, sachant que aujourd'hui, l'AfD combat moins l'Europe, c'est moins l'ennemi numéro un, ça reste un parti de... Il promeut, c'est compliqué ce mot-là, la politique du bouc émissaire. Mais le bouc émissaire aujourd'hui, c'est plutôt l'immigration que l'Europe. Donc eux, un peu comme le Rassemblement national, disent on veut une autre Europe, mais notre premier but, c'est plus de sortir de l'Europe ou même de la zone euro, mais de la changer. Et si on n'arrive pas à la changer, bon, là, on sort. Mais du coup, ils prennent compte des sondages ou de l'opinion publique qui veut finalement pas sortir de l'Union européenne.
Et si si l'opinion publique évolue par rapport à cette sortie de l'Union européenne, c'est peut-être aussi parce qu'elle observe cette opinion, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, Alex Taylor, depuis le Brexit, enfin avec le Brexit, parce que s'il y a un pays qui incarne ce combat contre l'Europe et peut-être cette dimension nationaliste, c'est bien le Royaume-Uni. Qui va participer aux prochaines élections européennes? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut gérer ce paradoxe total d'un pays qui sort et qui, en même temps, est en campagne actuellement pour les européennes?
Bah, c'est parfaitement cocasse, mais si vous voulez, je crois que les Britanniques ont pris une longueur d'avance, parce que le Brexit, c'est pour moi, c'est l'apogée du populisme. Les gens disent que, dans une certaine mesure, que le UKIP, Nigel Farage, pas forcément des populistes, mais pour moi, ils en sont. En tout cas, ils ont beaucoup agité l'épouvantail de l'Europe, qui est une espèce de d'ennemi qui a concentré les esprits en Grande-Bretagne pour tout ce qu'on n'aime pas. Mais en fait, c'est ce que j'ai compris. Enfin, depuis 3 ans, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans mon pays d'origine. Et souvent, on se tombe de cible. Les gens, il y a 6 ans, vous avez demandé aux gens quelles sont vos principales préoccupations. L'Europe figurait à 1% ou 2%. C'était plutôt le chômage, le coût de la vie, etc. Et c'était brassé par ces populistes. Moi, j'aime pas trop le terme. Moi, je les appelle des nativistes. On les appelle d'ailleurs de plus en plus nativists. En Grande-Bretagne, tous ces mouvements, parce que populiste, c'est un peu populaire, voilà. Donc moi, je dirais, c'est ces mouvements identitaires nativistes qui, tout d'un coup, ont créé ce monstre sacré qui n'en était pas du tout en Grande-Bretagne. Je sais que les Britanniques ont toujours été un peu europhobes, mais en même temps, ils ont adhéré à tout ce qui était européen, le marché unique. C'est d'ailleurs eux qui ont poussé pour faire ça.
Il n'y avait pas forcément d'identité britannique très affirmée jusqu'à la campagne du Brexit.
Le problème, c'est ce que j'ai compris, moi, parce que je réfléchis depuis 3 ans, comment ça s'est passé, comment un peuple normalement constitué a pu faire quelque chose comme ça, c'est parce que c'est une vaste crise identitaire britannique. C'était très facile de dire, en fait, nous ne sommes pas européens, nous sommes britanniques, nous sommes très différents, mais c'est ce qu'on voit maintenant. Maintenant, qui risque de se retrouver tout seul, vous voyez que je dis « il », donc je me dis ceci de plus en plus depuis que je suis devenu français, mais maintenant qu'ils risquent de sauter par-dessus la falaise, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à sortir, et qu'ils risquent de se retrouver tout seul entre eux, vous avez des velléités nationalistes qui sortent dans tous les sens. Il y avait la First Minister, la Première Ministre écossaise qui a fait un discours hier pour dire « dès qu'on sort, si l'Angleterre nous arrache contre notre volonté de l'Union Européenne, il y a tout de suite un deuxième référendum sur notre indépendance. Vous avez l'Irlande du Nord qui, à mon avis, d'ici 5 ans, sera indépendante. Vous avez même des Gallois qui commencent à brandir des drapeaux dans les stades de rugby beaucoup plus qu'avant. Et même, il y a un nationalisme anglais. Parce qu'en fait, c'était très bien quand on disait on n'est pas européens, nous les Britanniques. Mais maintenant que vraiment ils risquent de ne plus être européens, de sauter par-dessus la falaise, on se rend compte que en fait, c'est une vaste crise identitaire qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe.
Crise identitaire qui s'étend peut-être d'ailleurs à d'autres pays. Marie-Gladys, est-ce que vous diriez qu'en tout cas, la dimension identitaire que l'on peut retrouver dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, c'est quelque chose qui fragilise l'Europe aujourd'hui, ou bien c'est quelque chose que l'Europe, l'Union européenne, n'a pas su suffisamment prendre en compte dans la façon dont elle se construit, dont elle s'organise?
Je crois que c'est plutôt la deuxième phrase qui est vraie, parce que je crois qu'il y a beaucoup de, surtout en Europe de l'Est, qui vous savez, qui est par exemple la Pologne, elle était effacée de la carte de l'Europe pendant très longtemps à l'époque de partition. Ensuite, il y avait la période communiste où la Pologne n'était pas souveraine non plus. Donc il y a cette sensibilité, par exemple en Pologne, à défendre chaque centimètre de sa souveraineté, chaque centimètre de son identité nationale, parce qu'on se battait pour ça. C'était ça qui nous a permis de survivre. Et là, en effet, je crois que c'est pas assez pris en compte par les dirigeants européens. Il y a une telle désinformation qui accompagne ces élections. Vous savez, il y a une certaine paresse intellectuelle, je crois, qui fait que on reste sur les clichés européens, anti-européens. Par exemple, le gouvernement polonais, quoi qu'on pense et quoi qu'on dise de lui, si on le traite...
Dieu sait qu'on dit beaucoup de choses
voilà,
sur lui,
mais
hein,
voilà, chacun peut avoir son opinion, il n'y a aucun problème. Mais quand on dit que c'est un gouvernement anti-européen, c'est tout simplement pas vrai. Le président polonais, il y a encore 3 ou 4 jours, il a proposé, il a émis un projet d'inscrire l'appartenance de la Pologne à l'Union européenne dans la constitution polonaise. Donc c'est tout simplement quelqu'un qui a une autre vision de l'Europe. Et c'est pour ça qu'il est traité d'anti-européen. C'est quand même curieux.
Hein. Alain Alain Pedro, je vais vous approuver. Enfin,
alors,
peut-être pas d'ailleurs.
Beaucoup de choses, l'Europe telle qu'elle se construit, elle déçoit beaucoup de monde. Je n'ai jamais caché, à commencer par moi-même. En même temps, j'ajoute, juste pour rendre les choses claires, on ne peut pas survivre seul, chacun, et il faut parier sur ce projet, mais le changer peut-être autrement. Mais cette Europe-là, elle était en beaucoup de choses technocratiques. On utilisait ce mot tellement souvent, mais aussi peu démocratique. Il y a des référendums. On vote pas comme Bruxelles le voudrait. Et comme les chefs d'État, de gouvernement, qui font la pluie et le beau temps en Europe, ont décidé. Souvenez-vous de l'Irlande. Eh bien, on revote une deuxième fois. Souvenez-vous ici en France, 2005, vous votez contre le projet de constitution européenne. Ça, ben, ça passe ensuite au Parlement. Donc, ce contre-exemple de démocratie a éloigné les citoyens de cette notion d'Europe. Jamais personne dans aucun pays et dans les commissions européennes à Bruxelles n'a pensé à créer une notion d'identité européenne. Et elle existe pourtant, parce que quand on va aux États-Unis ou quand on va en Australie ou quand on va en Afrique du Sud, on est capable de dire « Oh non, mais je me sens européenne, je me sens européen par rapport à cette tradition, à cette façon d'être, etc. » Donc elle existe. Donc ça. Et puis, troisième point...
Pardonnez-moi juste, mais alors, petite parenthèse, mais Ana Navarro-Pedro, si elle existe, cette identité européenne, ça serait quoi les deux ou trois grandes caractéristiques de cette identité.
Non, mais c'est ça justement qu'on n'a pas. On se sent européen, mais ensuite parce qu'il y a des choses culturellement...
Mais vous qui y avez réfléchi, peut-être que vous avez quelques réponses.
Mais je n'ai pas là-dessus que je voudrais. Je voudrais aller sur ce que. Moi, je pense qu'il y a une notion de liberté individuelle, qu'il y a une notion aussi de solidarité entre dans chaque pays de l'Union européenne et donc qui, surtout de l'Europe occidentale et qui donc fait partie du projet initial de l'Union européenne. Après, il y a beaucoup d'autres éléments très difficiles à définir. Mais je voudrais revenir sur ce que voudraient faire les partis populistes. Maintenant qu'ils ont retourné leur veste et qu'ils ne sont plus comme il y a en 2016 en train de voter, de dire on va tous demander, 13 demander, qu'on vote pour la sortie de l'Union européenne. Ça, c'est un peu fini, là. Ils ont bien vu que sortir, comme disait, je ne sais plus qui, sortir les œufs de l'omelette, c'est pas évident. Et puis, ils ont tout à perdre. Mais ce qu'ils ont décidé, c'est d'avoir une idée, peut-être très aidée par l'Américain Steve Bannon, une idée d'une Europe impériale, d'une Europe qui commencerait par défendre ses frontières externes des migrants et des réfugiés, parce que ça, c'est le principal, et même pour le populisme ou non-populisme, nativisme anglais, c'était le migrant qui a été le grand ciment fédérateur du mouvement du Brexit. Donc déjà cette Europe, une Europe sécuritaire, trouver des solutions militaires pour des problèmes sociaux et puis la transformer de l'intérieur pour que un autre élément d'identité européenne, quand même la défense de la démocratie, la défense des droits humains, eh bien pouvoir changer de l'intérieur, notamment s'ils ont une minorité de blocage au Parlement ou à la Commission européenne, de pouvoir supprimer ces éléments-là pour ne plus être en contradiction avec l'Europe telle qu'elle se fait. Donc il y a une vision sombre et militaire de l'Europe et enfermée de l'Europe pour ses partis, mais elle existe et les autres partis et Bruxelles n'ont rien à opposer.
Une vision sombre. Est-ce que pour autant il y a un projet commun, d'après vous, Alex Taylor, entre ces différents partis que l'on qualifie de populistes ou de nationalistes? Ou bien est-ce que leur nature et leur essence même fait que quand on est nationaliste, et ben forcément on s'intéresse d'abord à son propre pays, mais il y a peut-être une difficulté ensuite au Parlement européen à fédérer un peu ça. Aujourd'hui, en tout cas, c'est plutôt l'éclatement qui domine que les convergences.
Bah, bien sûr, sinon on le saurait. Hein, s'il y avait un programme en commun entre les différents partis populistes, ça fait longtemps qu'ils se seraient mis ensemble et qu'ils auraient formé des alliances, comme par hasard, chaque fois qu'ils essaient de travailler ensemble. On a vu l'exemple avec les populistes néerlandais, Geert Wilders, qui n'arrivait pas à s'entendre avec Marine Le Pen, parce que tous ces mouvements, quand on commence à gratter là-dedans, sont des mouvements extrêmement différents. C'est pas pour rien que, par exemple, Nigel Farage, le Brexiteur par excellence, n'a jamais voulu, parce qu'en même temps, on peut pas dire pique-pan de l'Europe tout le temps et puis former des alliances avec d'autres partis européens. J'ai envie de, si je peux juste réagir par rapport à ce que vous avez dit, parce que moi, j'ai envie de retourner la question, la question de ce débat, c'est, est-ce que les populistes ont besoin de l'Europe? Je crois, je vais vous choquer, hein, je vais vous, vraiment vous étonner, mais de plus en plus, moi, je suis persuadé, en fait, que l'Europe a besoin de ces populistes. Parce que c'est un véritable débat. Parce que depuis, encore une fois, depuis 30 ans que j'essaie d'intéresser les gens à l'Europe. Moi, c'est mon métier. C'est pour ça que je vous ai dit un peu viscéralement au début, je me définis comme un journaliste européen. On me dit à longueur de temps, Alex, l'Europe n'intéresse personne. Et là, je peux vous dire, je l'ai constaté dans les émissions. Je regardais une émission, l'émission principale politique de la BBC hier soir, qui s'appelle Question Time. C'est dans une ville différente chaque fois de la Grande-Bretagne. Vous avez 5 panélistes et vous avez 200 personnes en public. Les gens sont passionnés. Enfin, souvent, ça se manifeste par des gens qui s'engueulent. Mais en même temps, au moins pour une fois, il y a de la passion. Vous savez comment ça se mesure? C'est maintenant, quand on fait des émissions de télévision, on peut juger l'intérêt des gens par le wattage dans les centrales électriques en Grande-Bretagne. C'est-à-dire les gens, quand ils commencent à s'emmerder dans une émission, ils sortent pour faire un thé, pour la pause. Quand on parle de l'Europe et du Brexit, les gens sont là. Dès lors qu'on entame un autre sujet, ça c'est nouveau quand même. Ça fait longtemps que... c'est inouï. Mais au moins, le Brexit aurait fait ça. L'Europe passionne les gens et c'est parce que, pourquoi, malheureusement pour mes compatriotes, it's too late, c'est trop tard, parce que ils ont fait la chose la plus stupide, c'est de sortir, enfin, ils essayent de sortir, mais au moins la présence du Brexit, des Brexiteurs, des nativistes, de Nigel Farage, réussit à créer un vrai débat qu'il n'y avait pas avant. C'était très difficile de défendre l'Europe parce qu'il n'y avait personne à qui défendre devant, si vous voulez ce que je veux dire.
Alors, je retiens cette proposition de changement de titre d'Alex Taylor. Est-ce que ça n'est pas finalement l'Europe qui a besoin des nationalistes? Qu'en pensez-vous, Birgit Holzer?
L'Europe a besoin d'être mise en question, peut-être. Mais je pense qu'effectivement, les populistes aujourd'hui, parce que le titre de l'émission était est-ce que les populistes ou les nationalistes ont besoin de l'Europe? En fait, ils le remettent plus en question. Il y a très peu de partis.
Ils prospèrent quand même électoralement aussi dans l'idée d'une contestation de l'Europe, pas forcément dans une sortie désormais, mais en tout cas d'un minimum de reconstruction.
Dans le changement, peut-être aussi la prise de pouvoir en Italie de Salvini a changé la donne, parce que ça a montré que avec ce discours, on peut aujourd'hui être à la tête d'un gouvernement, mais rester en Europe et peut-être essayer de peser. Je pense que ça ravit ou ça motive beaucoup de partis aujourd'hui de plutôt dire peut-être on ne sort pas tout de suite, mais on essaye de changer quelque chose, parce qu'effectivement la majorité des gens veulent rester en Europe ou dans l'Union européenne, mais changer quelque chose. Après, changer comment, ça c'est un autre débat. Mais je pense que ce qui ressort pour moi de ça, c'est que c'est des partis opportunistes, du coup, qui aujourd'hui disent, puisqu'on ne peut pas sortir, on essaye d'agrandir notre pouvoir et de montrer à notre électorat, parce qu'au final, c'est des partis qui aujourd'hui espèrent avoir du pouvoir dans leur parti. Le premier, c'est le Rassemblement National, mais aussi dans tous les autres partis. Et du coup, l'Europe devient une sorte de levier pour ça, pour montrer à l'électorat, regardez, on est capable à avoir ce pouvoir.
Marie-Gladys, le fait de dramatiser l'enjeu avec cette menace d'une percée des nationalistes, puisqu'il semblerait, alors d'après les enquêtes d'opinion, que ces partis-là, qui pour l'instant sont disséminés entre plusieurs groupes, on verra bien ce qu'il adviendra une fois que le Parlement sera constitué, mais qui devraient quand même gagner des positions dans le prochain Parlement. Cette dramatisation, ça aide aussi, on va dire, les pro-européens pour essayer de protéger et de perpétuer l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui.
Je propose moi aussi de changer le titre.
Ouais, allez-y, allez.
Poser la question, est-ce que les progressistes, entre guillemets, ont besoin de populistes? Je crois qu'ils ont un besoin impérial d'avoir un ennemi majeur qu'on appelle le populiste. J'ai l'impression que Emmanuel Macron et sa liste Renaissance, son programme, et le programme de Madame Loiseau, c'est combattre le populiste. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y avait quelques propos sur l'écologie dernièrement, mais le point majeur
plus que quelques propos.
Oui.
Même si après on lui reproche peut-être d'avoir une approche un peu opportuniste de ces questions.
Vous avez raison. Mais c'est un peu à la dernière minute. Voilà, on avait Nicolas Hulot qui a claqué la porte. Donc ça, c'est pas très cohérent, à mon avis, hein. Mais voilà, on a besoin de Front National pour dire, voilà, nous sommes là pour faire le bouclier à la Troisième Guerre mondiale, parce que le nationalisme, c'est la guerre. Vous savez, je voudrais choquer personne, toute proportion gardée. Mais ça me rappelle, parce que j'ai grandi à l'époque soviétique, où on disait, dès qu'on critiquait l'Union soviétique, on disait, attention, faut pas le faire parce que c'est la Troisième Guerre mondiale qui nous attend. Il y a des impérialistes américains qui attendent que ça. Donc voilà, bien sûr, toute proportion gardée, vous n'êtes pas choqué personne, mais c'est assez étonnant de voir qu'on a besoin de ce ennemi nationaliste, populiste pour exister. Et si vous permettez, la question première de l'édition, est-ce que les populistes ont besoin de l'Europe? À mon avis, non, parce que quand on regarde, par exemple, tout ce qui s'est passé, cet énorme malaise avec Gilets jaunes en France, je suis désolé, j'aime la France, j'y réside depuis plus de 30 ans, c'est comme ma deuxième patrie, j'ai beaucoup de respect pour le président français, mais le président français qui a...
Que vous avez comparé à Staline tout à l'heure, quand même.
Oui, je me suis permis, oui. Voilà. Mais le président français qui traite une partie de ses citoyens de gens qui ne sont rien, des illettrés, il les porte-parole qui dit, voilà, un peu avec un peu de mépris, les gars qui fument des clopes roulant en diesel, en parlant d'une partie de citoyens modestes, j'ai envie de dire, quand on voit ça, on n'a pas besoin de l'Europe pour être en colère.
Si, pour répondre à la question initiale, on continue sur la même.
Vous la gardez, vous,
la question de... Je garde la vôtre. Si ces partis n'avaient pas vraiment besoin de l'Europe, d'abord, ça leur donne une raison d'exister, ne serait-ce qu'en s'opposant à l'Europe tout court, maintenant, à la façon dont elle est organisée. Mais s'ils n'avaient pas besoin de cela, ils n'auraient pas adhéré à ce projet de Steve Bannon, l'ancien conseiller, chef de campagne de Donald Trump aux États-Unis, qui essaye de les fédérer dans un mouvement appelé The Movement, avec un avocat belge d'extrême droite. D'ailleurs, Steve Bannon est très déçu parce que ces gens-là ne sont pas capables de se fédérer, d'obéir, sont disciplinés, se détestent. Comme disait Alex, ils ont des idées très différentes d'un parti à l'autre. Chacun ne veut céder un millimètre de pouvoir au voisin d'à côté. Donc, c'est le petit espoir pour l'Union européenne, le Parlement et la Commission que les mésententes traditionnelles les empêchent de se fédérer dans une force politique active. Mais tout de même, s'ils n'y voyaient pas un intérêt, ils n'auraient pas adhéré à ce mouvement. Certes, ils financent certains éléments certaines initiatives déjà sociétales qui vont dans le sens de ces partis. Par exemple, nous avons une consoeur norvégienne qui Vibeke Knobel-Raklin, qui vient de découvrir que Steve Bannon et des Américains finançaient, par exemple, une clinique ou des projets anti-avortement, c'est-à-dire retirer des filles qui ou des femmes qui voudraient faire une interruption volontaire de grossesse pour les amener dans un endroit racheté où elles pourront amener les grossesses. Ça, c'est pour la presse norvégienne. Donc, ça va loin quand même. Et ils y ont certains intérêts. L'autre chose qui me sidère, et on n'en a pas parlé encore, c'est que dans le vocabulaire des dirigeants européens, on a commencé à utiliser, à tout amalgamer dans le mot populiste, et les partis d'extrême droite, et les partis très conservateurs, et les partis de gauche et d'extrême gauche aussi. Et ils n'ont pas des programmes différents, des programmes semblables, pardon.
Oui, ils ont des programmes différents.
Et donc, c'est comme si cette opposition des partis traditionnels à tout ce qui peut contester leur mainmise sur le pouvoir entre droite et gauche depuis 30 ans, les amenait à se battre pour leur peau. C'est un problème d'amalgame très, très préoccupant, je trouve, pour l'avenir.
Ce que relève d'ailleurs ces divergences entre donc cette galaxie populiste nationaliste que relève, puisque je l'évoquais en ouverture de cette émission, le Figaro aujourd'hui, ils disent entre les pro-américains et les pro-russes, entre les ultra-libéraux et les protectionnistes, entre les ultra-conservateurs au plan des mœurs et ceux pour lesquels la religion n'a aucune importance, entre ceux qui, Salvini en tête, plaident pour une répartition des migrants et ceux qui, comme Orban, ne veulent en recevoir aucun. Les lignes de fracture sont nombreuses, Birgit Holzer.
Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que la seule chose qu'ils ont en commun, c'est de dire bah on veut moins d'Europe qui impose, on veut plus de pouvoir pour plus de souveraineté d'une certaine manière pour les nations. Mais quand on regarde plus près, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avoir un programme commun, c'est que économiquement, sur la répartition des migrants, sur les relations avec la Russie aussi, ils sont pas du tout d'accord. C'est pas du tout, c'est des pays aussi très différents avec des histoires différentes, mais c'est ce qu'ils essayent de gommer. Pour l'instant, les partis nationalistes sont repartis en trois fractions au niveau du Parlement européen. Salvini, justement, essaye de les unir, rassembler pour faire une fraction, mais lors du dernier meeting à Milan, ça n'a pas du tout marché, ou en tout cas, c'était pas du tout le grand rassemblement. Donc ça montre déjà les limites. Mais ça va être intéressant à voir après le vote.
Alex Taylor.
Justement, le Brexit encore une fois, c'est une longueur d'avance parce que c'est le populisme. Mais dans les faits, si la Grande-Bretagne est toujours 3 ans après, de façon assez loufoque, toujours en train de lire dans 2 semaines des députés européens, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser ce que c'est que ce vœu des populistes, si vous voulez, des Brexiteurs. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, au juste, le Brexit? C'est pour ça que les Britanniques sont pas sortis. C'est parce que ça a complètement clivé les Brexiteurs entre eux, des gens qui faisaient la campagne derrière Boris, où il y avait un slogan sur les hôpitaux britanniques. Maintenant,
Boris Johnson.
Oui, Boris Johnson, qui sont obligés de définir leur vision du Brexit. Ils s'engueulent, mais depuis 3 ans entre eux. C'est pour ça que le Parlement britannique n'arrive pas à trouver un consensus autour de ce que c'est que ce Brexit. C'est très facile de dire sortons de l'Europe, tout ira mieux. Mais une fois qu'on a pris la décision, et ça veut dire quoi sortir de l'Europe, ils n'ont pas la réponse. Et c'est pour ça qu'on en est là. Et vous savez, paradoxalement, je voulais juste vous dire ça. Moi, ça m'a vraiment frappé. La ville, moi j'ai voyagé partout en Europe, la ville où j'ai vu le plus de gens agiter des drapeaux européens, mais avec fierté, c'est quand j'étais à Londres, j'ai fait un reportage sur cette marche où il y avait 1 million de personnes. Dans aucune autre ville européenne, on a vu autant de gens brandir, parce que tout d'un coup, c'est la chanson de Janis Joplin. You don't know what you've got till it's gone. On ne sait pas ce qu'on a jusqu'au moment où on le prend. Des jeunes à qui on a enlevé leur citoyenneté, leur possibilité de faire comme moi j'ai pu faire depuis 40 ans, vivre, étudier dans un autre pays, m'installer à Berlin pendant 10 ans parce que j'avais envie de travailler à Bruxelles. Quand on vous enlève ça, tout d'un coup, ça crée des gens qui descendent dans la rue et là, il y a une vraie fierté européenne.
Eh ben, c'est sur cette phrase que nous allons conclure ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Birgit Holzer, Anna Navarro, Pedro, Marie-Gladys. Donc je rappelle, la France, maillon faible de l'Europe, c'est la question que vous posez dans un ouvrage que vous venez de publier aux éditions de L'Artilleur. Et Alex Taylor, Brexit, l'autopsie d'une illusion, le Brexit sur lequel vous réfléchissez beaucoup, vous nous l'avez dit depuis 3 ans, et c'est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Voilà, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à l'équipe du Grand, Antoine Dulster, Amélie Perrault, Fanny Richer, Léa Capuano, Cyril Marchand, émission réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son Nadège Antonini, Philippe Mercher et Jean-Benoît Tétu. D'Europe, il en sera à nouveau question ce dimanche à 11h en public et en direct de l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris. Ce sera pour l'esprit public d'Émilie Aubry. Campagne électorale, combien d'Europe? Ce sera une des questions qu'elle posera à Monique Contos-Perber, Daniel Cohn-Bendit, Philippe Manière et Thierry Pêche. Pour réserver, c'est sur notre site franceculture.fr, site sur lequel vous pouvez également réécouter cette discussion du Grain.